Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous avec vous pour le 10h midi. On va parler d'amour avec Michel Simès. Hélas, il va nous enlever quelques illusions. Je pense qu'il sera avec nous dans quelques instants. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour, c'est chimique entre nous, Valérie.
C'est chimique, voilà. L'amour s'explique de façon extrêmement scientifique. Et on va en parler avec lui, les pouvoirs du corps humain inédit. Demain, c'est ce soir, pardon, à 21h05 sur France 2, présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu. À 10h30, on va revenir sur l'affaire Matzneff avec le juge pour enfants Jean-Pierre Rosenzweig et avec notre ami André Bercoff qui, lui, a bien connu cette époque et qui pourra nous en parler également. 0826 300 300. On va commencer avec ce que vous avez regardé hier à la télévision. 0826 300 300. On attend vos appels. Hier soir, il y avait pas mal de choses. Le carton, c'est pour France 2. 4 653 000 téléspectateurs, 19,5% de part de marché. C'est 2,5 millions de plus que le téléfilm de la semaine dernière et 50 000 de plus que le lancement de la saison 1 en novembre 2018. Oui, ouais, absolument. C'était effectivement les Rivières Pourpres qui étaient très attendues. Deuxième position, c'est TF1 pour la série Sam. Petite déception certainement pour TF1, 3 914 000 téléspectateurs. Troisième position, c'était France 3 avec le film Appaloosa, un western, 2 306 000 téléspectateurs. Et puis, quatrième position pour M6, Marié au dernier regard, 2 millions de téléspectateurs à peu près, 9,7% de part de marché. C'est un peu plus que ce que fait M6 habituellement, mais c'est quand même 400 000 téléspectateurs de moins que la saison précédente. Donc peut-être qu'il y a une petite lassitude. Sur le sujet, on a en ligne avec nous Sonia, justement, qui a regardé Marié au premier regard. Bonjour Sonia.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, effectivement, j'ai regardé.
Oui.
Et je suis un peu déçue quand même, parce que ça traîne en longueur. Le suspense, il dure, les petits suspens, et ça revient sur le tapis. Alors, on attend que ça avance, et puis ça n'avance pas. L'idée est très bonne, hein. C'est original comme idée, Marié au premier regard. Et puis Sarah, la jeune femme là, qui a dû choisir entre deux, c'était très bien, mais alors ça traîne en longueur, le suspense, il se répète. J'ai vu le moment où j'allais tout éteindre, mais je voulais savoir la suite.
Bah oui, c'est comme ça que ça marche.
Continue. Il faut attendre la semaine prochaine pour savoir qui elle a choisi.
Bah oui.
Alors j'ai attendu pour rien, jusqu'à la fin.
Et vous allez regarder la semaine prochaine ou pas?
Oui, je vais regarder, je vais savoir, mais ils sont pas fous, hein.
Bah oui, ils sont forts.
Ils entretiennent le suspense, hein.
Ouais. Bon.
Mais c'est trop, ça traîne trop en longueur. Voilà, c'est trop.
C'est trop long et trop fabriqué.
Regardez le lendemain, vous regardez le replay, puis vous accélérez jusqu'à la fin.
Oui, c'est aussi une solution.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Vous regarderez jusqu'au. Ben après, vous allez être prise la semaine prochaine par le prochain couple aussi. C'est ça le problème.
C'est possible, c'est leur but. Hein.
D'accord.
C'est leur but.
Merci.
C'est pas mal quand même.
Merci beaucoup, Sonia. Merci de nous avoir appelés. Miss Lout, elle a regardé Sam hier soir.
Le retour de Sam.
On aura la semaine prochaine
Fred Testo et Natacha Lindiger. On aura les deux héros. On aura Sam à la fois et puis Fred Testo.
Absolument. Dans un instant, on va recevoir Michel Simès, mais on va passer aux Zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, Valérie, sur LCI, face à Céline Verzelti de la CGT, Thierry Bourreau, qui s'est fâché sur la grève, alors rouge de colère, en indiquant que c'est une minorité qui bloque les transports.
Mais regardez, alors en même temps, vous dites les gens sont bloqués, on bloque le pays, et en même temps, vous dites qu'on n'arrive pas à faire
grève. Une minorité à la RATP bloque la région parisienne, c'est ça la réalité.
Mais non, ce n'est pas vrai, ce sont des agents qui exercent leur droit de grève, et ne dites pas qu'ils bloquent.
Et ceux qui essaient de prendre des trains, on l'a vu dans certaines images pendant les vacances, se font insulter par des grévistes.
Il y a des grévistes, vous avez la majorité de la population qui est contre cette réforme. Mais vous êtes dans le déni total, et ça, c'est un vrai problème.
Dans cet à vous sur France 5, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, que vous allez recevoir à 10h30, Valérie, et il parlait donc à propos de l'affaire Matzneff. Il rappelait qu'une mineure peut aller déposer plainte tout seul.
Il faut dire aux victimes, et notamment aux mineurs, ça, il faut le dire, c'est important à l'antenne, que les gosses qui ont moins de 18 ans, et qui ont a fortiori moins de 15 ans, ont le droit d'aller tout seul au commissariat pour porter plainte. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés.
Parents.
Les adultes ne le savent pas. Et donc les enfants ne le savent pas. Il faut avoir confiance dans la justice.
Hier, dans Quotidien sur TMC, ils sont revenus, vous savez Valérie, sur l'affaire du slip français où certains employés, en dehors de leur travail, se sont grimés en noir, choquant les réseaux sociaux. Depuis, la marque et ses employés sont agressés, comme le confiait Guillaume Gibault, le président du slip français.
L'entreprise, elle est affectée. D'abord par ses salariés, les collaborateurs, 115 personnes qui sont pris à partie, parfois violemment sur les réseaux sociaux, en boutique, physiquement, au téléphone.
Ça reçu des appels malveillants en boutique.
Ouais, on a vraiment eu des comportements très violents, très agressifs.
Vos deux salariés sanctionnés, ils ont compris ou pas quand vous leur avez expliqué?
Je pense qu'ils comprennent. C'est une situation compliquée.
Cette image qui a fait le tour du monde, Valérie, je ne sais pas si vous l'avez vue, comme le rappelait BFM, une pie qui est en Australie, traumatisée par les incendies. Elle est tellement traumatisée qu'elle a développé une particularité. Écoutez.
Oui, ça se passe à Newcastle, au nord de Sydney. Cette image a été relayée en fait déjà plus de 50 000 fois, juste sur YouTube. On y voit une pie. Et écoutez, elle a tellement entendu le bruit des sirènes de pompiers, bien qu'elle l'a imprimée.
C'est dingue, hein? C'était le retour de Touche pas à mon poste hier et Cyril Hanouna recevait Olivier Marchal qui a donc cartonné avec les rivières pourpres. Ouais. Et vous savez, quand il était flic, et ben il avait un petit surnom.
Pensais que t'allais faire une aussi grosse carrière, une aussi grande carrière?
Non, je faisais le con. Bon, la nuit, je disais, vous verrez, plus tard, j'aurai mon nom partout. Ouais. Ouais, parce que tout le monde se foutait de ma gueule, évidemment. J'ai, ah, la sûr. Nuit, on m'appelait.
Les collègues, ils se foutaient de ta gueule ou pas?
Oui, bien sûr, on m'appelait Francis Huster. Donc.
Mais je les vois, les mecs! Francis Huster, viens là, viens boire un coup, c'est bon, pareil!
C'était le groupe à Huster quand les affaires arrivaient en bas, tiens, monte-le à Huster!
Non, mais c'est vrai, mais c'est énorme!
C'est rigolo, hein, Francis
Allez,
Huster!
On va passer à l'invité du jour.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est le docteur Michel Simès. Bonjour docteur.
Bonjour chère madame.
Merci d'être avec nous. On va parler avec vous des pouvoirs extraordinaires du corps humain, les pouvoirs de l'amour. Et alors je dois avouer que je suis très 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 déçue par cette émission parce que je pensais que l'amour c'était magique.
C'était pour toujours
et que c'était magique. Et alors on apprend plein de trucs dans cette émission. On va y revenir dans un instant. Vous êtes évidemment aux côtés d'Adriana Carambeu. Vous êtes toujours un homme très occupé. On vous retrouvera bientôt, je pense, avec Ça ne sortira pas d'ici, l'émission de deuxième partie de soirée qui cartonne.
Qui cartonne sur France 2.
Ouais. Bah ouais, c'était ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'émission de deuxième partie de soirée.
Qui marche bien, c'est même étonnant ce qui se passe avec des, je ne sais pas, on a 5-6 millions de vues sur Snapchat, sur des extraits. Il se passe un truc sur cette émission qui est assez extraordinaire.
Et vous n'êtes pas étonné des confidences des stars, en fait, parce qu'elles vous racontent des choses incroyables.
Oui, alors je suis étonné, si vous voulez, j'applique dans cette émission ce que je fais en consultation, parce que je continue à exercer, avec un dialogue qui s'instaure. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens ont l'air d'oublier qu'il y a une émission de télé et qu'il y a du public derrière. Ouais, et il s'installe une vraie complicité. Alors j'essaie d'être aussi empathique qu'on peut l'être quand on est médecin et ça marche, et les gens me disent des choses, mais je ne vais jamais vers le secret médical, c'est-à-dire que ça c'est une règle, et si à la fin de l'émission un de mes invités a dit des choses qu'il ne veut pas garder, on l'enlève, c'est que de la
bienveillance.
C'est arrivé une fois, oui, mais c'était rien d'extraordinaire, mais la personne en sortant a dit ouais, je préfère qu'on l'enlève parce que ça va, c'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout est amplifié, formé. Donc voilà, mais sinon et ce qui est extraordinaire, c'est que nos invités sortent de l'émission mais hyper contents. À tel point, je suis extrêmement fier, pas très modeste, mais les agents nous appellent en disant la personne que je représente voudrait participer à l'émission et des gens connus. Ah. Et ça, c'est extraordinaire.
Alors les prochains, vous pouvez nous dire ou pas déjà?
Non, parce qu'on est en train de faire. D'accord. On est en train de faire le casting, bon, mais on ne choisit pas que des gens qui nous ont appelés quand même.
Vous avez publié également Même pas bête, les 5 sens. C'est paru aux éditions Glénat Jeunesse et puis le journal Dr Good qui
magazine,
cartonne.
Ouais, Dr
Good.
Qui
est une réussite. Tout ce que vous touchez, vont réussir.
Écoutez, maintenant que vous me le dites, maintenant que vous vous me le dites. Non, c'est vrai que Dr Good, c'est une aventure complètement dingue. Tout le monde nous a regardé avec des yeux, des gros yeux, en disant mais vous êtes fous de vous lancer dans un magazine de presse écrite aujourd'hui alors que tout est numérique. On l'a lancé, ça fait entre 160 et 200 000 exemplaires tous les deux mois. On a lancé C'est Bon, qui est l'équivalent de Dr Good, mais pour l'alimentation, ça cartonne. On a lancé Dr Good Kids pour les enfants, ça cartonne. Et on va lancer un Dr Good Veto pour les gens qui ont des animaux. Voilà.
Les pouvoirs du corps humain, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça aussi, c'est une affaire qui marche et qui dure Adriana Carambeu.
Oui, un couple merveilleux.
Qui fonctionne bien.
Oui, on s'entend super bien.
Roméo et Juliette, ça commence comme ça l'émission.
Voilà. Vous avez vu.
Elle est au bord du balcon et elle tire sa tirade.
On se permet même de déconner un petit peu au début. C'est toujours, c'est toujours un plaisir incroyable.
Et donc, le thème de cette émission, c'est l'amour. Ouais. L'amour, les mystères de l'amour qui ne sont finalement pas si. L'amour n'est pas, finalement pas si mystérieux que ça.
Oui, alors peut-être qu'en regardant l'émission, les gens vont se dire, oh là là, ils ont tout ramené à la médecine, à la biochimie, à la biologie, à ce qui se passe pendant un coup de foudre, aux neuromédiateurs dans le cerveau, à tout ça, mais en même temps, ça permet de comprendre tellement de choses, et notamment toute la partie, par exemple, qui est consacrée à la raison pour laquelle vous tombez amoureux, ou à la raison pour laquelle vous avez, aux raisons pour lesquelles vous avez un petit coup, quelque chose qui se passe avec une personne, et c'est vrai qu'on décortique un petit peu le côté...
C'est qu'en gros, l'amour s'explique scientifiquement.
Absolument. L'amour s'explique scientifiquement. Et on a d'ailleurs un test avec quatre jeunes filles qu'on a mis dans un théâtre et à qui on a fait respirer, par exemple, le t-shirt de quatre jeunes hommes qui ne s'étaient pas lavés la veille, qui avaient dormi avec leur t-shirt et qu'il fallait respirer pour voir un petit peu si elles étaient attirées. Il se passe des choses étonnantes dans ce test. Hein, vraiment. Ça match parfois de façon.
Dans le même test, elles sont aveugles et il y a la voix, parce que la voix peut amener quelque chose d'érotique. Et puis,
plus qu'érotique, puisqu'on parle médecine, la voix d'un homme est très importante sur le plan de l'imprégnation de testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence. Et c'est vrai que quand on a des voix très graves chez les hommes, c'est rassurant pour les femmes, pour des raisons qui nous dépassent un petit peu, mais qui font que la testostérone est une preuve de fécondité, est une preuve que l'homme pourra vous faire des enfants. Enfin, c'est ce qu'on raconte.
Entre autres, on apprend aussi que lorsqu'on est très amoureux, chez les hommes, il y a la barbe et les poils qui poussent beaucoup plus rapidement.
Je l'ai appris en temps de vous. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Quand on a des coups de foudre, qu'on est amoureux, étant donné qu'on a une sécrétion de testostérone importante et que c'est cette hormone qui fait pousser les poils chez l'homme, on a la barbe qui pousse vite. Ce qui est bien, parce que il semblerait que la barbe soit un critère aussi de masculinité, et que les femmes aiment beaucoup.
Comment on explique aussi dans l'émission que la passion, ça dure pas toute la vie.
Oui.
Et ça s'explique aussi scientifiquement.
Alors, les scientifiques disent que c'est entre 18 et 36 mois et qu'en général, ça ne dépasse pas les 3 ans pour qu'une passion. En même temps, pour tous ceux qui ont vécu la passion, c'est tellement dévorant qu'heureusement que ça ne dure pas toute la vie parce que sinon, on ferait rien d'autre. Déjà 3 ans de passion, c'est déjà, je trouve, beaucoup. Mais s'il y en a encore parmi les auditeurs qui sont passionnés après des années, vous inquiétez pas. Il y a des cas aussi, ça dépend des récepteurs qu'on a, un neurotransmetteur qui est l'ocytocine.
Alors il y a aussi les nouveaux modes de rencontre, et vous interrogez dans l'émission des vieux couples, des couples qui ont plus de 60 ans de mariage, et puis les jeunes générations sur leur rapport à l'amour. Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, et sur les rencontres, il y a 50% aujourd'hui des rencontres amoureuses qui sont sur les sites. Alors moi, dans ma génération, je regardais ça avec des gros yeux, et puis surtout, j'avais pas une très très belle image de ces sites de rencontre ou de cette façon programmée d'aller choisir son partenaire en fonction d'un certain nombre de critères que vous trouvez sur les sites. Et finalement, dans l'émission, et là aussi on le voit, je rencontre notamment d'un jeune couple qui s'est retrouvé et qui s'adore, et ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils ont fait des enfants, et c'était formidable parce qu'ils étaient tellement touchants que moi, ça m'a fait changer complètement d'avis sur les sites. Et puis, on a participé à un atelier cuisine avec des célibataires qui se disent je suis tout seul, j'arrive pas à trouver l'âme sœur, autant que je vienne déjà apprendre à faire la cuisine, et puis en même temps, peut-être que je rencontrerai des gens. Bon, c'est comme ça, c'est la vie fait qu'aujourd'hui, la société nous rend très difficile des rencontres. Je dis why not, pourquoi pas les sites.
Mais c'est vrai que quand on est amoureux, on peut se surpasser, le corps change.
On dit que le corps change, effectivement, le cerveau change. Surtout, c'est votre cerveau qui va se modifier, qui va modifier les sécrétions de ces neurones médiateurs qui permettent la transmission de l'information entre les neurones. Voilà, et effectivement, la chercheuse, notamment Lucie Vincent, nous dit que
on change notre cerveau.
Voilà, et notre cerveau change en fonction de l'amour, de l'affection. Et d'ailleurs, on le voit avec les enfants. On a aussi une séquence avec un enfant qui vient de naître, un bébé qui vient de naître. Pour expliquer comment les premières semaines et les premiers mois de la vie sont importants pour votre réaction affective pour la suite de votre vie.
Vous parlez également des crises dans le couple, des chagrins d'amour dont certains ont beaucoup, beaucoup de mal à se relever.
Bah oui, vous avez vu qu'on est allé dans un... Enfin, moi, j'ai découvert ça aussi. Je ne savais même pas qu'il y avait des groupes de paroles pour les femmes, notamment, parce qu'on a suivi des femmes qui ont subi des chagrins d'amour. Un chagrin d'amour, quand vous le subissez, vous, et que vous arrivez à tourner la page, soit parce que vous rencontrez quelqu'un, soit parce que vous avez réussi à vous dire « bon, bah, c'est fini, on va passer à autre chose », ça va. Mais quand ça vous prend la tête pendant des années, que ça vous pourrit la vie, que ça vous empêche de bosser et que ça vous empêche d'avoir des relations sociales normales, eh ben, il y a un groupe de parole où on a rencontré effectivement des femmes qui avaient subi un vrai traumatisme psychologique après une rupture.
Mmh. Et vous, quel...
Je croyais que moi, j'ai pas subi de traumatisme.
Non. Mais quel est l'amour chez vous? Vous êtes un passionné, vous offrez des fleurs, vous êtes romantique, ou vous êtes médecin, vous mettez la main aux fesses?
Oh,
mais c'est le cliché du médecin.
Oh, mais c'est un cliché. Jamais de ma vie.
Il est ORL, il met le doigt dans la bouche. Vous savez... ou dans le nez, voire dans l'oreille.
Vous savez ce qui est terrible avec la période qu'on vit aujourd'hui, notamment avec tous ces prédateurs, c'est que vous faites un petit, moi, j'ai fait un peu comme beaucoup d'hommes, en me disant « mais est-ce que j'ai un jour dans ma vie fait quelque chose, soit dans ma carrière professionnelle de médecin, soit même en tant qu'être humain simple, est-ce que j'ai fait quelque chose auprès d'une femme qui pourrait aujourd'hui me dire que ça pourrait ressortir, parce que je suis public, en disant « tiens, mais je vous assure que j'ai tous les mecs aujourd'hui... » Non, bah, posez-lui la question, vous la connaissez bien, mais...
Non, mais à l'antenne.
À l'antenne, effectivement.
Vous avez fait des blagues.
Je pense qu'il pourrait du hashtag MeToo voilà. À l'antenne, ça, il y a...
On mais, peut plaisanter avec ça, mais...
Non, mais
vous savez, enfin, vous voyez bien la différence, vous ne pouvez pas faire
non,
semblant
mais je vois
d'imaginer...
La différence, mais bien évidemment, pour répondre à votre question, moi, je suis plutôt un romantique, donc vous voyez, la main aux fesses, c'est vraiment... Ou alors quand c'est dans les moments intimes.
Mais vous trouvez que c'est devenu dur pour un homme de draguer, de séduire?
Ah, je pense que c'est dur. Alors, je peux pas vous dire moi à titre personnel parce que je suis marié, mais je vois, moi j'ai des fils qui ont une vingtaine d'années. J'ai pas l'impression que ce soit difficile pour eux aujourd'hui parce que les jeunes entre eux.
Oui, ils ont les mêmes codes en fait.
Ils ont les mêmes codes et non, ce qui est difficile, c'est qu'on se pose la question à chaque fois qu'aujourd'hui on fait une blague ou surtout que moi je suis un peu.
Blagueur.
Voilà. On se dit, oulala, est-ce que je suis pas allé trop loin avant même de finir sa phrase, quoi.
Entre la blague et
l'acte lui-même et le passage à l'acte, c'est une chose.
Mais. Il y a une nuance.
Oui, mais. Voilà, on est dans une période où dans pas mal de domaines, et pas seulement dans celui-là, il faut faire un peu attention.
L'émission s'attaque également aux idées reçues. Dans chacune
de sexe,
des
là.
Émissions, bah oui, vous voyez arriver.
Je vois votre œil.
Voilà, ouais. Bon, pas du tout. Effectivement, toutes les idées reçues autour du
clitoris,
sexe, le point G,
et du clitoris.
Etc.,
voilà, et du clitoris, et comme le dit notre sexologue qui est avec nous dans cette émission, si à la fin de l'émission, les hommes peuvent comprendre que le clitoris, ce n'est pas un petit bouton d'ascenseur sur lequel il faut appuyer jusqu'à ce qu'on arrive au bon étage, ce serait pas mal, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et là on ne l'a pas inventé, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais il faut le répéter sans arrêt, il n'y a pas de plaisir clitoridien ou de plaisir vaginal chez la femme. Vous parliez de génération, moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière entre guillemets sexuelle, c'était la première question qu'on se posait entre copains, alors elle était vaginale ou clitoridienne? Ça n'existe plus, c'est toujours clitoridien, que ce soit avec la pénétration ou pas. Donc voilà, ce qu'on essaye aussi d'expliquer, que la taille n'y est pour rien, etc.
Mais c'est compliqué ce discours avec l'omniprésence de la pornographie et avec justement le comportement sexuel qui change avec des changements très importants avec l'identification à tout ce qui est pornographie.
C'est très compliqué et tous les tous les spécialistes disent que l'apprentissage de la sexualité se fait d'abord sur Internet par les jeunes et les adolescents aujourd'hui, et qu'il y a une déformation complète de ce qu'est la réalité. Ouais. Après, on compte sur... Enfin, je sais pas. Mais encore une fois, même j'ai des enfants, j'ai l'impression que tout se passe bien pour eux, bien qu'ils aient été d'une génération qui aurait pu aller sur Internet et qui sont allés probablement sur Internet. Je ne vais pas aller chercher sur les ordis, mais je pense qu'ils y sont allés. Voilà, c'est à nous, parents, d'expliquer que la vie... Et puis, je pense... à part dans des milieux dans lesquels les parents sont absents complètement, que voilà, même s'ils ont une vision complètement déformée de la sexualité par Internet, la vie les ramène à la réalité.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on s'automédicalise pas plus sur Internet ? Est-ce que finalement, on consulte moins les médecins et on va vraiment de plus en plus sur Internet ?
Non, on va s'informer, on s'automédicalise pas trop. Alors, bien évidemment, il y a... Si on vous dit allez acheter du paracétamol en parapharmacie et puis en pharmacie et puis vous l'aurez, voilà, vous pourrez vous soigner un petit peu. Je pense le problème d'Internet, c'est pas vraiment les informations qu'on va y chercher, c'est les forums. Ils s'échangent énormément de conneries entre les patients et c'est ça qui est dangereux. Et puis Internet permet à des désinformateurs. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je me bats, vous le savez, pour les vaccins, et je me suis fait attaquer. Voilà, et je me fais attaquer en permanence par des anti-vaccins. Le danger, il est là. Il est plus dans la mauvaise information, voire la désinformation crapuleuse, plutôt que dans aller chercher. Moi, quand j'ai un patient qui vient me voir en me disant, je suis allé sur Internet voir par rapport à votre spécialité, j'ai vu où c'était, etc., je discute avec lui. Mais parfois, ils viennent en disant « je veux pas de médicaments, docteur, parce que j'ai vu sur Internet que...
Ouais. » Et là, c'est très, très difficile de faire changer, en particulier sur la vaccination. Ouais. Le débat est très compliqué et parfois même impossible.
Vous savez, Valérie, l'idée, elle est simple. Il faut, et je suis désolé, on est dans un pays démocratique où la parole est libre, il faut arrêter. Et je m'adresse à tous les médias, et je l'ai fait sur C'est à vous, je l'ai fait sur plein de médias. Il faut arrêter de donner la parole aux anti-vaccins.
Vous ne
pouvez pas laisser les gens s'exprimer quand il s'agit de désinformation, et plus on leur donne la parole, même s'il y a des détracteurs en face, et d'ailleurs je me refuse à débattre avec des anti-vaccins, il ne faut pas leur donner la parole. Je vais passer pour un dictateur, pour un censeur, pour tout ce que vous voulez, mais on est dans le domaine de la santé publique. C'est
rappelez
une catastrophe.
Rappelez que les cas de rougeole mortels sont en augmentation.
Il y a des pays dans lesquels...
Vous n'avez jamais eu aucun doute ?
Jamais. Non. Jamais de ma vie j'ai eu de doute. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une notion essentielle en médecine qui est la notion de rapport bénéfice-risque et qu'à partir du moment où on a un acte médical, on a un risque même minime, mais c'est le bénéfice qui l'emporte. Et c'est comme ça dans tous les actes médicaux.
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc ça parle d'amour ce soir, les pouvoirs de l'amour, 80% de notre communication amoureuse est non-verbale, et puis il y a
dans
le regard, voilà. On se regarde, allez, partez, il est temps que vous partiez. La passion,
je vais vous laisser, alors.
La passion amoureuse entre 18 et 36 mois, mais... N'importe quoi. Il faut regarder cette émission ce soir à 21h sur France 5. Michel Simès, Adriana Carambeu, pour vous parler de l'amour et des pouvoirs de notre corps. Merci Michel Simès d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve nous dans quelques instants.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, on parle du livre de Vanessa Springora, Le Consentement. La parution de ce livre a fait l'effet d'une bombe. Elle raconte comment elle a été séduite par l'écrivain Gabriel Masneff alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ce livre paru chez Grasset est en rupture de stock un petit peu partout. Ce livre a provoqué l'ouverture d'une enquête contre l'écrivain pour viol sur mineur de moins de 15 ans. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre la publication de ce livre pour qu'on s'intéresse vraiment aux actions de Gabriel Masneff, et puis plus largement sur cette hypocrisie qui avait cours au moment où Vanessa Springora et d'autres étaient auprès de Gabriel Masneff. On a tous réentendu cet extrait d'apostrophe, on a reparlé des livres de Gabriel Masneff. Pour en parler ce matin avec moi, Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour. Êtes ancien magistrat, ancien juge pour enfants. Vous venez de publier Les droits de l'enfant pour les nuls aux éditions First. Et André Berkoff, je vous ai demandé de venir, vous avez publié Le retour des peuples, c'est votre dernier livre aux éditions Hugo Doc. Je vous ai demandé de venir parce que vous avez, vous, connu cette époque-là. Vanessa Springora, dans son livre, dans la deuxième partie du livre, dénonce certaines hypocrisies et certains laxismes à la fois de l'édition et de la justice sur mais ce
il
sujet.
Faut, il faut se remettre, et ce n'est pas du tout pour défendre.
Mais alors, est-ce qu'on peut effectivement le dire, il y a ces deux époques, est-ce que c'est vraiment deux époques? Il y a des gens qui étaient choqués déjà à l'époque.
Il y a des gens qui étaient choqués à l'époque, certes, mais en tout cas, il n'y avait pas eu levée de bouclier quand est paru Les moins de 16 ans.
Ouais.
Les moins de 16 ans étaient
parus
dans
la commission
de Jacques
Chancel,
la commission polémique. Tout le monde l'avait lu, enfin tout le monde. Ça n'a pas été un best-seller, mais disons le milieu médiatico-intellectuel l'avait lu. Et effectivement, il n'y avait eu, y compris d'ailleurs dans les journaux dits conservateurs, il n'y avait pas eu de levée de bouclier. Bon, il y avait des gens qui ne l'avaient pas du tout aimé, etc. Et pour cause. Mais si vous voulez, quand je parle de climat de l'époque, je veux dire, c'était un climat... C'était, n'oubliez pas, le climat un peu post-68 tard. Ça joue quand même, c'est-à-dire que, allez, vive la liberté, vive, c'était... On parlait plus de tout de devoir, on parlait de droit. Le droit à l'enfant, le droit à ceci, le droit à cela, le droit au plaisir, le droit à la jouissance, etc., etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y avait deux choses qui jouaient. D'abord... On ne touche pas aux écrivains, on ne touche pas aux artistes. Certes, les artistes ne sont pas toujours des gens, je dirais...
Avec la moralité
voilà, incontestable, absolument. Mais on ne les touchait pas. Et donc, si vous voulez, c'est passé. Et c'est, et la meilleure preuve, c'est que non seulement c'est passé, mais il a été réédité, ce livre, en 2005, comme vous le savez.
Il a d'abord été édité, donc la question aussi se pose sur le choix des éditeurs.
Réédité en 2005, absolument. Et il y a eu, quand même, il faut rappeler juste... J'arrête là pour le moment, mais il y a eu la pétition signée par Sartre, par Aragon, par Kouchner, par tout le monde, ce milieu intellectuel,
pour défendre
en disant mais oui, mais écoutez, la sexualité pour les moins de 15 ans et autres, ça doit être admis, etc. Et je ne parle pas de Cohn-Bendit ou tout ça, je parle de gens comme Frédéric Mitterrand ou Cohn-Bendit qui l'ont écrit, dit, et y compris à apostrophe, Cohn-Bendit, et publié.
Jean-Pierre Rosenzweig. La justice n'a pas jugé utile de réagir à l'époque. Pourtant, il y avait des lois déjà qui existaient sur la pédocriminalité.
Oui, il y avait des... non, sur la pédocriminalité, non. Concept est
apparu beaucoup
moderne.
Plus tard.
Non, à l'époque, et ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est révélateur. On parlait d'atteinte à la pudeur sur mineur. Ouais. Atteinte à la pudeur. Aujourd'hui, on parle de crime.
Ouais.
De crime de viol. Attends. Ouais. On est passé d'un
Il y a une légère différence.
Et une légère différence, punie de 2 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, le viol est puni de 15 ans, sur mineur 20 ans, et l'atteinte sexuelle, avec la nouvelle loi, est punie de 7 ans. En d'autres termes, il y avait déjà des textes. Mais pour rejoindre ce que dit M. Berkoff, mais ça le fera sourire en reprenant un lapsus qu'il a eu. Dans cet esprit post-68-art, quelqu'un qui se présentait comme un Robin des Bois qui violait la loi, puis qui en plus donnait du plaisir... quelque part, avec des gens affables qui l'accueillaient à leur table, Bernard Pivot, ça passait. Mais la vraie innovation... Alors, ce qui est intéressant dans ce discours, dans le discours boutonnier sur les droits, vous avez parlé du droit, non pas de l'enfant, mais du droit à l'enfant.
Oui, qui est actuellement en pleine GPA-PMA.
Ouais. Hein.
Vous voyez, l'absus, c'est pas l'absus, mais...
Non, c'était voulu.
Si c'était voulu, c'est encore plus révélateur, c'était la revendication par des adultes d'avoir droit à des enfants.
C'est ça.
Et ça, c'est profondément choquant.
C'est assez choquant,
Pour mais il y a des gens qui, à l'époque, avaient été choqués. Oui, quand on interroge, on se souvient de cette émission d'apostrophe.
Des gens comme Stanislas Tomkevitch, Pascal Vivet, Claire Brisset, j'en passais des meilleurs. Des gens qui étaient des militants... des professionnels des droits de l'enfance, alors qu'aujourd'hui, c'est la parole des personnes qui ont été concernées. Et la mutation extraordinaire, c'est qu'on parlait de loi dans cette époque-là. Est-ce que c'est légal, pas légal, et après tout, violer la loi, surtout dans ces domaines de mœurs, dans les post-68 art, ça passait. Aujourd'hui, on a pris conscience, mais ça a pris 20 ou 30 ans, du trauma, c'est-à-dire des conséquences que ça avait. Regardez Mgr Barbarin, qui dit « Je savais que c'était illégal, la pédophilie. » ou la pédocriminalité, pour parler moderne. Mais nous n'avions pas conscience de ce que ça pouvait causer, des dégâts que ça pouvait causer aux victimes. Et à ces personnes qui ne parlent pas de victimes, mais que nous, on identifie comme victimes. Je crois qu'il y a une mutation intellectuelle. Mais pour dire la vérité, encore aujourd'hui, on est d'une hypocrisie extraordinaire. Regardez l'histoire de, en 2017, à Pontoise et Melun, de ces deux gamines qui ont 13 ans chacune et qui vont avoir des relations sexuelles complètes alors qu'elles étaient vierges, mais peu importe, avec des hommes, un de 28 et puis l'autre de 20. On a dénoncé effectivement ces affaires. On nous a dit qu'on allait prendre des mesures fortes et claires, notamment à travers une loi qui va devenir la loi de 2018 sur le consentement. On va poser un principe, c'est qu'avant moins 13 ans, disaient certains, 15 ans, disaient d'autres, mais enfin, disons 15 ans, la loi vient dire qu'il ne peut pas y avoir de consentement. Et puis finalement, on a débouché sur quoi ? Parce que nous voulions un crime. Certains se sont enfermés dans le concept de viol, ce qui était une erreur. On voulait aller vers un crime. Ben finalement, ça a fait flop. Pourquoi ? Ben parce qu'on n'a pas été capable, j'allais dire, d'être dans cette idée que l'un était l'agresseur et que l'autre était la victime. C'est les psychiatres dont on parlait tout à l'heure, sur des plateaux de radio où j'étais, France Culture ailleurs, qui disaient « ce sont les enfants qui sont séducteurs ». Sous-entendu, c'est presque les enfants qui sont coupables. Et regardez ce qu'a dit Masneff. Et en plus, moi, je leur ai donné du plaisir. Il oublie de dire qu'il a fait sa psychothérapie, si je puis me permettre, sur le dos des enfants qu'il a utilisés.
Mais les enfants, on parle d'enfants, mais 13-14 ans, on peut avoir une sexualité, on peut avoir du désir, et c'est le rôle de l'adulte.
Mais pas avec des adultes. Par définition, adulte mineur, ça veut dire quoi ? L'un est mature, l'autre immature. L'adulte doit être mature pour deux ou pour trois, même si un enfant lui fait la danse du ventre, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. L'adulte doit savoir dire non. C'est la différence entre l'enfant et l'adulte.
C'est ce qu'elle raconte à ses biens.
Exactement. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que nous allions vers une législation qui est très simple, qui soit objective et non pas subjective avec le consentement, mais qui vienne dire aux adultes, plus de 18 ans, et a fortiori 50 et plus, vous n'avez pas le droit de toucher aux enfants qu'en moins de 15 ans. Point barre. Alors, il y a un fait objectif, est-ce qu'il y a une relation sexuelle ? Premier fait objectif. Deuxième fait objectif, est-ce que vous aviez plus de 18 et est-ce que lui avait moins de 15 ? Et vous êtes coupable du crime de violence sexuelle à enfant puni de 12 ans d'emprisonnement. C'est ce que la loi aurait dû faire en 2018 et qu'elle n'a pas osé faire.
Mmh. Comment se fait-il qu'à l'époque, j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais on a fait beaucoup de choses entre-temps, mais vous le disiez, il y a des gens qui étaient choqués, André Bercoff aussi l'évoquait, mais que la justice ne soit pas penchée, il dit qu'il a été convoqué plusieurs fois, elle le raconte dans le livre.
Parce que la justice est à l'aune de la société, qu'on y regarde bien, et pas seulement l'intelligentsia parisienne. Regardez actuellement le procureur de la République, qui est moderne, M. Rémietz, il n'a pas attendu que la victime porte plainte dans l'affaire Enel. Il n'a pas attendu que la victime porte plainte. Il a pris l'initiative parce qu'il s'est rappelé que la loi lui permettait de le faire. Mais prenons un autre exemple sur une autre illustration à partir de l'histoire de M. Masneff. J'en suis relativement fier parce qu'on y est pour quelque chose, à la fois en termes de militant, en termes même familial, avec mon beau-frère qui est député. On a réussi à faire voter une loi qui punit en France des actes sexuels commis par des Français ou des ressortissants étrangers habitant habituellement en France, qui ont été commis à l'étranger. Et on a réussi à les faire être condamnés en France. On a fait la loi. On n'a pas obtenu plus de 2 ou 3 condamnations. Ce qui prouve que là encore, il y a un fossé entre le législateur qui prend conscience, les juges qui suivent ou qui ne suivent pas, etc. Et l'opinion.
Il est là le problème. C'est parce que récemment, encore une fois, il y a eu plusieurs affaires, mais enfin, je prends une qui m'a particulièrement choqué, je n'étais pas le seul, où on disait, vous savez, c'était bon, il se fait que c'était un migrant, etc., qui avait violé une fille de moins de 11 ans, etc. Et l'avocat le défendait, encore une fois, les juges ont été assez laxistes là-dedans, mais il disait qu'il n'avait pas les codes culturels. C'est très intéressant. L'avocat disait oui, mais vous comprenez, oui, mais enfin, il dit, mais la fille avait 10 ans, 11 ans. Oui, mais lui, il savait pas.
Dans son pays, ça se fait.
Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, et surtout, moi, je suis très, très frappé par le fait que, vous savez, il y a encore, et on le sait, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, en Angleterre, où il y a eu, à Telford et à Brantham, il y a eu 1400 filles de 11 à 12 ans qui ont été mises en esclavage sexuel par des bandes de Pakistanais ou même de Britanniques, etc., peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'encore que malgré les lois, la justice est laxiste. Et la question que je voulais vous poser, c'est quand Marlène Schiappa dit, c'est à partir de 13 ans qu'on peut être, vous savez, l'âge de 13 ans. Elle dit, oui, mais le consentement, eh ben, on peut admettre qu'après tout, à partir de 13 ans, on est conscient. Je trouve ça assez hallucinant.
C'est un sujet qui est très complexe. C'est pour ça que quand on peut l'éliminer, il faut l'éliminer. C'est ce que je propose en matière sexuelle. Mais regardez, aujourd'hui, la loi risque de changer demain, en apparence. Mais elle risque de changer demain. À partir de 7-8 ans, la loi estime, et les juges estiment, qu'un enfant peut avoir le discernement au point de commettre un délit ou un crime et de pouvoir être poursuivi en justice. 7-8 ans. La loi demain qui nous est proposée va venir dire, avant 13 ans, jamais, sauf. Aujourd'hui, c'est, il peut et je ne suis pas obligé de poursuivre. Vous voyez, 7-8 ans, la majorité pénale, aujourd'hui. 13 ans. Autour de 12-13 ans, un enfant peut accomplir les actes de la vie civile. C'est ce que je dis dans mon bouquin, le droit des enfants pour les nuls. Donc il y a une certaine compétence, donc de discernement. Donc la question était de savoir, est-ce que le statut... Mais ça devient très politique.
Hein, oui, c'est un peu...
Est-ce que le statut civil ne doit pas être lié au statut pénal, et est-ce que le statut pénal ne doit pas être lié au statut civil. Finalement, moi j'étais plutôt pour 13 ans. Finalement, certains disent 15. C'est le président de la République qui a insisté pour 15. Mais à la limite, peu importe aujourd'hui, 13 ou 15, on s'est enfermé dans le débat sur le consentement. Le parquet et la partie civile vont vouloir prouver qu'il n'y avait pas consentement. Et l'accusé a le droit d'essayer de prouver qu'il y avait consentement. Donc, il va y avoir un aléa. Et c'est ce qu'on a vu à Melun. La cour d'assises a estimé que ce monsieur de 20 ans qui avait une relation sexuelle complète n'avait pas voulu la violer. Sous-entendu, parce qu'une porte est ouverte ou fermée, la gamine était plus ou moins consentante. Il faut sortir de ce débat. Et comme en plus, à Melun, on n'avait pas posé la question sur l'atteinte sexuelle, il est ressorti, j'ai l'air libre, quasiment avec les félicitations du jury. Il faut sortir de ce débat sur le consentement. Et après, il faut réfléchir, c'est la question que vous posiez, à l'uniformisation du statut. On a des devoirs à la hauteur de ses droits, et on doit être protégé dans l'exercice de ses droits.
On revient aux droits et devoirs.
Allez, oui, on se retrouve dans un instant, 0826-300-300, si vous voulez réagir à ce sujet. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Pierre Rosenzweig, ancien magistrat, ancien juge pour enfants. Je rappelle votre livre, Les droits de l'enfant pour les nuls. Et André Bercoff, Le retour des peuples, est paru aux éditions Hugo Doc. Une question d'une auditrice qui demande ce que vous en pensiez, vous, à l'époque, puisque vous avez un âge certain. André Bercoff, vous vous souvenez?
Un certain âge, bravo.
Oui, un certain âge.
Et je vais vous dire, c'est, parce que, évidemment, j'ai repensé à cette époque-là. Et bien, moi, j'ai connu Gamadznev, puisque dans les milieux, on le voyait. Mais on ne discutait pas du tout de pédophilie, du tout. On discutait d'orthodoxie, etc.
C'est mais vous saviez quand même qu'il avait écrit ça.
Je savais qu'il avait écrit
les moins de 16 ans.
Et vous savez, comme c'était écrit les moins de 16 ans, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas à l'avant. Moi, je me rappelle même pire, parce que pour moi, ce qui a été pire, c'est ce qui est paru dans Libération.
Oui.
La fameuse pétition, parce qu'elle revendiquait, et elle trouvait... Attention, vous avez de Sartre à Kouchner, à Michel Foucault...
Simone de Beauvoir, toute l'intelligentsia, Gilles Deleuze...
Toute l'intelligentsia française de l'époque, ou presque, en tout cas progressiste, appelons-le comme vous voulez, avait signé la pétition.
3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit. Si une fille a droit à la pilule à 13 ans, c'est pourquoi faire. Voilà.
Voilà,
c'est,
exactement. C'est... Donc, allons-y, pourquoi pas, etc. Et dans le climat de l'époque... On se disait, oui, c'est pas... Vraiment, c'est quelque chose qui ne suscitait pas. Et c'est vrai que c'était avant MeToo, c'était avant Balançon. Avant, et on revient à cette histoire, effectivement, je dis peu de justice, mais morale. Moi, personnellement, ce qui me choque profondément, en un mot, c'est que je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut entre adultes consentants, mais vraiment tout ce qu'on veut. Mais adultes et consentants, ce sont deux notions indissociables et très importantes.
Oui, oui. Jean-Pierre
pour répondre à la question, première et deuxième question, ce qui s'est joué, c'est qu'on a assimilé, enfin, on s'est approprié les pédocriminels. Au passage, on ne parle pas de pédophile. Non. Moi, je suis pédophile, c'est-à-dire au sens où j'aime les enfants, vous aimez les enfants.
Voilà,
ce qui est important, c'est la pédocriminalité.
Oui, oui,
ce n'est pas le fait d'aimer les enfants.
Le mot de pédophilie, non, mais il est quand même
connoté. Justement, il faut sortir de ce mot pédophilie.
Et parler de pédocriminalité.
De même manière, en termes de mots, c'est important, ne plus parler d'abus sexuels sur mineurs. Il n'y a pas de sexualité normale d'un adulte sur un enfant. Et je reviens au sujet, je pense qu'effectivement, ceux qui ont fait émerger, ou certains de ceux, parce que je faisais partie des gens qui ont fait émerger les droits des enfants, mais pour les enfants, et certains l'ont fait pour s'approprier les enfants. Ouais. Les droits ont une sexualité, les enfants ont une sexualité Disney Masnef, et je vais leur faire bénéficier de cette sexualité. En d'autres termes, mélanger les deux sujets. Oui, une gamine de 12-13 ans a le droit de faire des câlins, à jouer au docteur, à faire l'amour, etc., etc. Et effectivement, elle a le droit d'accéder à la pilule de manière libre et anonyme. Mais ce n'est pas pour autant que l'adulte doit avoir une relation avec lui. Ouais. 12 ans avec 14, 15 ans, 16 ans, peu importe, mais pas avec 18 et plus. Le type de 50 ans, le Masnef qu'on voit à la télévision, il n'est pas à égalité, parce que c'est tout le débat actuel. L'égalité entre hommes et femmes.
C'est ce qu'elle raconte dans le livre.
Effectivement, c'est la montée aussi de ce débat sur la violence qui n'est pas seulement physique, mais qui est psychologique et
morale.
Et aujourd'hui, on parle d'emprise. Et le moins qu'on puisse dire, si jamais l'affaire Masnef va jusqu'à un procès, le procureur de la République, l'avocat général, j'allais dire, ils ont un terrain qui a été déblayé. Masnef n'a pas arrêté de démontrer les éléments de l'emprise qu'il exerçait.
C'est
moi,
clair.
J'étais le beau, j'étais un homme, j'étais un père, j'étais intellectuellement fort. Bref, il écrit tous les éléments de l'emprise.
Et je les enseignais. Voilà. Et au contraire, j'étais un bénéfacteur, comme on dit. J'étais un Père Noël.
Alors, ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est qu'il a toujours...
Le Père Noël est une ordure.
C'est qu'il a toujours pas entendu que malgré tout ce qu'il disait et croyait, après tout il peut être sincère, il avait fait du mal. Parce qu'après tout, vous pouvez faire du bien. Pensez, vous faites du bien et faire du mal. Un certain nombre de pédophiles prêtres l'ont compris, eux. Alors, pour répondre à la question sur l'époque, moi, je fais partie des gens, je vous dis, nous dénoncions, mais nous n'étions que des professionnels. J'ai dans mon bureau des échanges de correspondance avec Masneff où nous l'épinglons au nom du journal Droit des Jeunes et on le traite de prédateur. Mais pour autant, la société n'était pas prête. Mais, parce qu'elle banalisait.
Mais je voudrais dire, ça va plus loin encore, Jean-Pierre Rosenzweig. Et Valérie, ce qui s'est passé, c'est que, rappelez-vous, Denise Bombardier, juste pour parler de ça, elle avait dénoncé, elle avait dit, attendez, arrêtez de jouer.
Tout à fait.
Vous dites exactement, arrêtez de jouer. Vous êtes un prédateur, vous êtes quelqu'un qui utilisait son prestige, etc. Elle a été boycottée.
Elle a dit que
c'est mal baisée. Non, mais les Philippe Solers, les Josiane Savigno, etc. On dit, mais qu'est-ce que c'est
mais
que cette femme?
Et qui continue aujourd'hui à défendre. Il y a eu un papier particulièrement dégueulasse dans le journal du dimanche. Moi, j'aime bien Marie-Laure Delorme qui écrit des critiques littéraires plutôt très intéressantes. Elle a fait un papier sur le livre de Vanessa Springora en disant « Est-ce que c'est de la littérature ?» Comme elle ne peut pas démonter le bouquin sur le fond, elle le démonte sur la forme. J'ai trouvé que c'était complètement débile parce que
elle n'a pas voulu faire un bouquin littéraire.
Mais non, c'est ça, c'est pas la question, c'est un témoignage. Un témoignage. Et le titre du consentement vous semble être intéressant et judicieux, justement.
C'est le vrai problème.
C'est le vrai problème.
Et je dis que pour se sortir de ce problème qui nous a encore piégés en 2018, il faut en sortir. C'est-à-dire qu'il faut l'éliminer, le problème.
Et si Sauf qu'elle n'avait pas conscience à l'époque qu'elle n'était pas consentante, puisqu'elle dit qu'elle y est allée.
Mais moi, mon problème, ce n'est pas tellement Vanessa qui témoigne de ça, il y a 40 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et je dis que les parlementaires...
Le présent.
C'est que les parlementaires de 2018 n'ont pas su passer à une infraction objective plutôt que de rester dans la subjectivité du consentement. Tout ça, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient des peines criminelles, et pour eux, peine criminelle égale viol. Moi, je leur disais, mais attendez, quittez le terrain du viol, créons une infraction spécifique, la relation sexuelle de quelqu'un qui a plus de 18 avec quelqu'un qui a moins de 15. C'est un fait objectif. Peu importe qu'il ait été séduit, peu importe qu'il ait cru que, peu importe. Il avait plus de 18, elle avait moins de 15, il a donc commis le crime. Le slogan était très simple pour aller à la télévision, touche pas à l'enfant. Et si tu touches à l'enfant, tu vas en cour d'assises. Eh bien, ce discours-là, qui est un discours clair et fort, il n'a pas été tenu, il n'a pas été concrétisé. Et puis, il faut reprendre la loi 2018.
Et je rappelle quand même, à l'époque, il faut rappeler Gabriel Russier.
Bien sûr, ce professeur
qui avait séduit, il avait 17 ans.
Pour le coup, il y avait de l'amour.
Ah oui, il avait 17 ans, elle en avait d'ailleurs 30-35, enfin c'était ça. Et elle s'est suicidée à cause de l'opprobre qui a été jeté sur elle. Il faut rappeler ça. C'était la même époque, hein. Pratiquement.
Il n'y avait pas 25 conquêtes ou 30 conquêtes qui étaient alignées.
Absolument, absolument. Et ce n'était pas quelqu'un qui se vantait de... Voilà.
On a fait beaucoup de progrès entre-temps, il faut quand même dire.
Oui, il y a eu des progrès.
Regardez, en vrac, on a fait partir la prescription pour les crimes sexuels à 18 ans, et non pas au jour des faits. Deuxièmement, on a allongé la prescription, on a fait en sorte qu'elle soit plus longue que la prescription de droit commun, et qu'elle soit quasiment... Personnellement, en 2018, j'allais jusqu'à dire c'est un crime contre l'humanité, le fait de violer ou de violenter des enfants, et allons jusqu'au bout, l'imprescriptibilité. On peut punir en France des faits qui ont été commis à l'étranger. Les policiers ont fait un boulot fantastique. Carole Mariage, Thierry Thérault, qui sont les policiers de terrain, ont inventé des techniques d'audition des enfants qui font que désormais, les dossiers sont plus solides aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Le procureur initiatif prend, la République prend des initiatives qu'il ne prenait pas auparavant.
Mais il y a
Le débat public a évolué. Sous la pression des victimes.
Sauf qu'on voit aujourd'hui que les victimes souvent s'expriment dans les médias parce que la justice aujourd'hui est incapable de répondre correctement à ces plaintes. Quand on voit Adèle Haenel qui dit quand une victime porte plainte, on décortique sa vie, on la traite de pute, en gros, comment elle est habillée, pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle était là.
C'est ce qu'on appelle les garanties judiciaires dans un pays démocratique. Ça n'existe pas partout. L'affaire Carlos Ghosn n'est autre que d'autres manières de traiter les gens.
Il y a d'un côté la justice, et puis il faut bien comprendre, il y a aussi la psychologie, les mœurs, la société. Il y a le fait qu'on l'a vu avec l'affaire Weinstein. Ouais. Moi, j'ai lu un bouquin extraordinaire que je recommande, d'ailleurs, Valérie et tout le monde, le bouquin de Farrow.
Ronan Farrow, qui est incroyable.
Qui est passionnant. Et qui montre que qu'est-ce qui s'est... Alors là, c'était pas atteinte pour enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand vous êtes quelqu'un, et d'ailleurs, c'est pour Matzneff et les autres, quand vous avez une réputation, vous jouissez d'une certaine impunité. On dit, oui, mais on ne va pas toucher à ce type. C'est quand même un écrivain. On ne va pas toucher à Weinstein. C'est le plus grand producteur hollywoodien.
Et Polanski, c'est le plus grand artiste.
Voilà. Et c'est tout le problème entre l'homme et l'œuvre. Hein. C'est vraiment le... Woody Allen aussi a été très, très coupable. Hein. Et on ne va pas remonter à Jean-Jacques Rousseau non. et autres. Et c'est vraiment le problème. Moi, je dis, attendez, on ne va pas censurer son œuvre. Mais s'il s'est comporté comme une ordure, il faut le traiter comme tel. Ouais.
Mais si, parlons de l'œuvre quand même. Ouais. Si l'œuvre se traduit par de l'apologie.
Oui, c'est ça, oui. C'est la nuance
c'est
entre...
l'apologie de la violation de la loi. Ce n'est pas la même chose qu'une œuvre artistique.
C'est-à-dire que Woody Allen, dans ses films, ne fait pas l'apologie de la
pédophilie. Voilà, et la différence, par exemple, entre Polanski et Masneff, c'est que Masneff, Polanski, quelque part...
Oui, absolument. Il a fait son fonds de commerce.
En fait, son fonds de commerce, le revendiquait. D'ailleurs, à mon avis, c'était sa thérapie. C'était
Il risque quoi aujourd'hui? Il risque quoi, Masneff?
Si l'affaire tient, pour l'instant, on est au niveau de l'enquête, hein, on n'est pas au niveau de l'instruction, mais s'il ressort des investigations policières, que ce soit sur la situation de Vanessa, soit sur d'autres situations qui pourraient émerger, petit à la prescription n'est pas acquise, il suffit qu'il y ait, que 30 ans ne soient pas écoulés depuis la majorité des victimes
des
potentielles.
Victimes, ouais.
Deuxièmement, on peut aller vers le viol, et, puisque c'est criminel, et avec cette idée qu'effectivement, la violence a été caractérisée par l'emprise qui existait sur. On peut aller vers une condamnation. Le but n'est pas de mettre M. Masneff en prison, c'est pas ça l'enjeu. Mais de venir dire, même rétrospectivement, c'était illégal. Et tout Masneff que vous êtes, tout Polanski que vous êtes, le débat est le même sur Polanski. Oui, le but n'est pas que M. Polanski aille en prison. Le but, c'est qu'il n'échappe pas à la justice.
Sauf qu'encore une fois, la grande différence juste, c'est que Polanski n'a pas fait.
Oui, mais on est d'accord. On est d'accord.
Sauf que dans son film, J'accuse, il a dit qu'il était comme Dreyfus.
Il s'est comparé à Dreyfus.
À Dreyfus. Allez, merci à tous les deux, c'était passionnant. Et je vous recommande, moi, le livre de Vanessa Springora que j'ai lu et que j'ai trouvé très factuel et assez bien fait et bien construit sur l'emprise, justement, comment elle décrit cette relation. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.